On va commencer Bezrat Hashem, notre deuxième cours, sur le chapitre 44. Nous sommes à la page 296. Déjà, je voulais vous dire que j'ai eu plusieurs répercussions du cours de la semaine dernière. Des gens qui m'ont dit pendant la semaine qu'ils vivaient encore avec le cours. Plusieurs. Parce que c'est, quand on parle de cette notion, la notion qu'on a parlé la semaine dernière, la notion de l'amour de Dieu, c'est une notion que l'Admor HaZaken développe dans le Tanya. Et c'est une notion qui est très innovante. C'est une notion qui est innovante. Normalement, en général, la relation qu'on a avec Dieu, c'est une relation qui est principalement basée sur la crainte. C'est la réalité. C'est-à-dire, tu prends dans tous les milieux, peu importe les milieux, bien sûr que tout le monde va te dire « j'aime Dieu au fond de moi », mais quand on voit comment on éduque les enfants, et de quelle façon on vit son judaïsme jusqu'à Bezrat Hashem 120 ans, on voit que la composante de la peur est une composante qui est pratiquement prédominante. C'est là que l'Admor HaZaken, bonsoir, c'est là que l'Admor HaZaken a développé un chidouche, mais un chidouche qui va nous accompagner encore quelques chapitres. Un chidouche magnifique, qu'on va retrouver dans chapitre 44, 45, 46, même 47. Très important. Là, notre but maintenant, c'est d'expliquer qu'est-ce que c'est l'amour de Dieu. Comment un juif, il peut aimer Dieu. Alors, la semaine dernière, on a posé la première pierre. On a expliqué un point très important. On a dit que lorsqu'on dit qu'un juif doit aimer Akadosh Baruch Hu, le Zohar il pose la question, il dit qu'est-ce que ça veut dire qu'un juif il doit aimer Akadosh Baruch Hu ? Et s'il n'aime pas, qu'est-ce qu'il doit faire ? Et le Zohar a donné une image très puissante qu'il faut développer. Il a dit qu'il y a des choses qui sont tellement ancrées en nous qu'on n'a même pas besoin de s'expliquer qu'on en a besoin. On a donné un exemple. Exactement. On a dit par exemple, imaginez quelqu'un qui arrive le soir, il est fatigué. Quand je suis fatigué, qu'est-ce que j'ai envie ?
Dormir.
J'ai envie de dormir. T'es fatigué, t'es pas bien, peut-être que t'es malade, peut-être que... T'es fatigué, tu veux dormir. Est-ce que t'as besoin de t'expliquer quand tu es fatigué ? De dire, écoute, je suis fatigué, donc j'ai appris une fois dans un livre que si une personne est fatiguée, la personne devrait aller dormir. Donc comme j'ai appris, donc c'est une mitzvah d'aller dormir.
D'accord, mais si tu es fatigué vraiment, tu peux pas dire tout ça.
Voilà. T'as pas besoin de penser à tout ça. C'est ton âme qui dit, je suis fatigué, je vais dormir, point barre. Même si ton cerveau n'est pas évolué, même si t'es un bébé, tu sais que t'es fatigué, tu vas dormir. De la même façon, tu as une situation, t'as très faim, t'as pas mangé toute la journée, t'es très faim. Est-ce que t'as besoin de t'expliquer, de te dire, j'ai appris une fois dans les livres que si une personne, une fois, il a faim, alors, il y a quelque chose qui s'appelle la nourriture. Et il faut essayer, il faut manger. Et quand on mange, ça calme la faim. Donc, je vais faire la mitzvah d'aller manger. Ça n'existe pas, ça. Personne ne réfléchit comme ça. D'accord ? Personne ne réfléchit comme ça. Une personne normale, comment elle réfléchit ? Il n'a même pas besoin de réfléchir. C'est automatique. Il a faim, il envoie sa main, il mange. Et si tu lui bloques sa main, il envoie la bouche. Et si tu lui bloques la bouche, il t'envoie un coup de boule, c'est tout. Ça marche comme ça. Ça veut dire que c'est des choses. On touche à l'instinct. J'ai pas envie de dire animal. Mais on touche à l'instinct de l'être humain. L'instinct, c'est un instinct que j'ai envie de manger. Dit l'Admor HaZaken, et on va développer. De la même façon, aimer Dieu, c'est un instinct chez nous. T'as pas besoin de t'expliquer pourquoi tu aimes Dieu. En vérité, aimer Akadosh Baruch Hu, c'est un instinct qui est au fond de nous. Un juif, au fond de lui, il aime Dieu. Et il a pas besoin de s'expliquer pourquoi il aime Dieu. Un juif, il aime Dieu.
Comment il sait qu'il aime Dieu ?
Alors, je vais t'expliquer. On va donner des exemples. Le Zohar, ça, je l'ai pas dit la semaine dernière. Parce que le Zohar te dit de mettre en condition. Ça, je l'ai pas dit, mais le Zohar, il donne un autre exemple là-bas. Il dit, c'est comme si on va poser la question à un fils, on va lui dire, est-ce que tu aimes tes parents ? Alors, la réponse, bien sûr, la réponse est oui, il aime ses parents. Maintenant, c'est vrai qu'avec le temps, et c'est un très bon exemple, ça, parce que c'est vrai que l'enfant, quand il est petit, il aime ses parents. Mais après, il peut se passer des choses dans la vie, dans la relation qu'il y a avec ses parents, qui font que lorsque l'enfant aura 20 ans, 30 ans, 40 ans, peut-être qu'il va dire qu'il n'aime pas ses parents. Peut-être même qu'il va dire qu'il les déteste. J'ai entendu des phrases comme ça. Peut-être qu'il va dire « je déteste mes parents ». Seulement, on te dit le soir la chose suivante. Il te dit « est-ce qu'un enfant a besoin de raison pourquoi il aime ses parents ?» Non. Est-ce qu'un enfant aime te dire « écoute, c'est écrit dans les livres qu'il y a une personne qui va t'amener dans le monde, qui va te concevoir, et c'est elle que tu devras aimer, donc j'ai fait une mitzvah de l'aimer ». Ça marche pas comme ça. Pourquoi tu aimes tes parents ? Parce que c'est automatique. Et le Yitzhara, pour t'empêcher d'aimer tes parents, il a besoin de travailler dur. pour te mettre les bâtons dans les roues. D'accord? C'est parce que normalement, par instinct, une personne est attirée par sa mère. Il n'a pas besoin de raison. Est-ce que vous croyez qu'un bébé qui est attiré par sa mère et par son père, vous croyez qu'il est en train de t'expliquer pourquoi c'est important? Il dit, ah, il me donne à manger, je lui fais un sourire. Tac, tac. Il réfléchit pas à ça. C'est automatique. Parce que c'est normal, c'est ses parents.
On peut dire que l'inverse est vrai aussi.
Bien sûr, ça va dans tous les sens. Seulement, on va se couper la demoiselle Zaken. C'est ça, il reprend du Zohar. Il te dit, le bébé, quand il était petit, il n'a pas besoin de s'expliquer pourquoi il aime ses parents. Mais après, avec le temps, quand il commence à grandir et qu'il y a des fois des choses qui ne tournent pas exactement comme il veut, là, il a besoin de s'expliquer pourquoi il doit aimer ses parents. Mais en vérité, il n'est pas en train d'expliquer pourquoi il doit aimer ses parents, parce que ses parents, il les aime déjà. Il est en train de s'expliquer pourquoi, au fond de lui, il aime ses parents. Vous me suivez?
Il est surtout en train de, il aime ses parents surtout parce que ses parents s'occupent de lui. Si ce même bébé est élevé par une autre famille, il va plus aimer ses parents.
Eh ben, monsieur Benita, je vous réponds. Je vous dis, c'est faux. D'ailleurs, il y a une mitzvah de respecter ses parents, même si ses parents ne l'ont pas éduqué, même si ses parents l'ont maltraité.
Respecter, c'est une chose, mais les
aînés. J'étais confronté à des cas comme ça.
Ils n'ont pas
J'étais confronté à des cas comme ça. Des cas où les parents ont maltraité les enfants. Et les enfants, il y en a qui m'a posé la question, il m'a dit, est-ce que je dois respecter mes parents? Et là, la chaye, oui. Ça ne change rien.
Non, parce que c'est son père. Le respect oui. Aimé, il y a quand même une
différence. Alors, voilà. Alors, c'est ce que j'ai envie d'expliquer. Ce que je vais expliquer par là, c'est la chose suivante. C'est qu'en vérité, j'ai pas besoin de raison pour m'expliquer pourquoi j'aime mes parents. J'ai pas besoin de raison. C'est automatique. Et même si, je vais vous dire, même s'il y a des fois des situations qui font que tu penses plus vraiment que t'aimes tes parents, en vérité, au fond, le toi, tu les aimes. Moi, j'ai vu une fois un jeune qui arrêtait pas de me dire qu'il déteste ses parents. Une fois, il était avec d'autres jeunes, et toujours, dès qu'il parlait entre jeunes, toujours, il critiquait ses parents. Ouais, mon père, c'est un ça, ma mère, c'est ça, etc. Il déchirait ses parents. Et une fois, mais lui, c'est lui qui parlait, jamais les autres qui parlaient. Une fois, hein, il y en a un autre qui lui a dit, ouais, de toute façon, ton père, c'est un... Il lui a décollé une droite. Alors, il lui a dit, mais je comprends pas. T'arrêtes pas de... Alors le copain il a dit, mais je comprends pas, t'arrêtes pas de nous dire ton père c'est un... Ah, pourquoi nous quand on le dit? Il dit, moi quand je le dis, c'est moi qui le dis. Vous, vous parlez pas de mon père. Comment tu expliques ça? Si vraiment c'est quelqu'un qui supporte pas... Hein. Si c'est quelqu'un qui supporte pas... Hein. Alors comment ça se fait que si tu te supportes pas, tu laisses pas tes copains parler de lui? Laisse tes copains, au contraire, tu te supportes pas, c'est faire un autre qui casse du sucre dessus. Seulement en vérité, c'est des petits détails comme ça qui montrent qu'en vérité, bien sûr que le fils il aime son père. Seulement... La relation, c'est comme ça, dans une relation, des fois, on n'arrive pas à exprimer de l'amour, et des fois, on exprime de la haine. Donc, des fois, c'est un yo-yo, c'est la bourse. Mais, bien sûr qu'un enfant, il aime ses parents. C'est automatique, un enfant, il aime ses parents. De la même façon, dit le Zohar, de la même façon, un juif n'a pas besoin de s'expliquer pourquoi il aime Dieu. Un juif, il aime Dieu. Seulement, parfois, le Yitzhara, qu'est-ce qu'il fait? Le Yitzhara, il te dit, attends, je vais te proposer un autre père, une autre mère qui est meilleure, qui te donne des choses meilleures. Qui va te donner tous tes cadeaux, tout ce que tu veux, etc. Pour te faire oublier le vrai père. Mais à la fin, comment on dit en français, chasse le naturel.
Il revient au galop.
Mais c'est vrai, ça vient de chez nous, ça. Ça veut dire que le Yitzhara, il a beau bosser autant qu'il veut pour nous faire oublier qu'on a un Dieu, et pour nous faire oublier qu'on aime Dieu, et pour nous faire oublier qu'on est attaché à Dieu. Mais quand arrivent des moments clés dans la vie, Rosh Hashanah, Yom Kippour, et des moments clés dans la vie, chasse le naturel, il revient au galop, un juif aime Dieu. C'est tout. Ça, c'est déjà la première pierre que nous donne la Mora Zaken. Et c'est très important de commencer par ça. Après, on va avoir des techniques. C'est très important de commencer par ça. Parce que si on vient voir un juif et on lui dit, écoute, on va essayer de t'apprendre à aimer Dieu, apprendre à aimer, hein, il va dire quoi? Mais il dit, mais dis-moi, l'âge que j'ai, maintenant, pourquoi tu veux que j'apprenne à aimer?
Comment on fait avec quelqu'un, excuse-moi de te couper, comment on fait avec quelqu'un qui dit que moi, Dieu ou pas Dieu, ça n'existe pas? Je suis étranger à tout ça.
Parce qu'il pense qu'il est comme ça. Alors il n'a pas développé quelque chose qui est en lui. Le Rav Selzetz, il donne un exemple. Il donne un exemple très simple. Il dit, dans son ouvrage sur le Tanya, il dit, imaginez une personne, je ne sais pas si vous l'avez déjà donné, peut-être ça fait quelques mois, mais en tout cas c'est un très bel exemple. Imaginez une personne qui est douée pour la musique. Il est né, il est doué pour la musique. Il est doué pour la musique, il a l'oreille musicale, mais il ne le sait pas. Parce qu'il n'a jamais grandi dans un environnement où il y avait de la musique. Il y a des gens comme ça, que je connais, qui sont doués pour la musique, mais qui n'ont jamais grandi dans un environnement qui développe ses sens. Très bien. Une fois, le gars, il a déjà 20 ans, 30 ans, 40 ans, et il entend une chanson. Et on lui dit, ah ben tiens, il passe devant un piano, il dit, tiens, je vais essayer. Bonsoir. Il essaye, et il voit que, en quelques heures, il voit que ça part, ça décolle. Il arrive à apprendre, etc. Donc, il découvre qu'il a l'oreille musicale, et il découvre qu'il est doué pour la musique. Alors, écoutez la question qu'il pose. Imaginons que ce monsieur, il a découvert ça à l'âge de 40 ans. Est-ce que ça veut dire qu'à partir de 40 ans, il est devenu doué pour la musique?
Non.
Non. En vérité, il est doué pour la musique depuis quand? Depuis tout le temps, depuis sa naissance. Seulement, il ne le savait pas.
C'est un don.
Mais tu comprends que si tu prends deux personnes, une personne qui est douée pour la musique et une autre qui n'est pas douée pour la musique, et les deux, tu leur dis à 40 ans, allez, on va apprendre maintenant la musique. Celui qui est doué pour la musique, en quelques temps, tout de suite, il va accrocher. Mais celui qui n'est pas doué, ça va être beaucoup plus difficile pour lui. Pourquoi? Parce que celui qui est doué, c'est pas à partir de maintenant qu'il est doué. Depuis sa naissance, il est doué pour ça. Même avant, depuis le ventre de sa mère. Seulement, il ne le savait pas. C'est comme ça qu'explique la Gemara Zaken. C'est pour ça que, des fois, hein, ça, je suis sûr que toute personne qui a fait teshuvah ressent parfaitement ce que je veux dire. Des fois, quand un juif, il fait teshuvah, hein, il a l'impression que c'est une montagne à surmonter, qu'il jamais il arrivera. J'ai dit, c'est impossible, comment tu fais teshuvah? C'est trop compliqué. Il y a tellement de lois, etc. Ça fait pas ci, fait ci, fait pas ci, fait ci, fait pas ça. Jamais j'y arriverai. C'est pas un régime alimentaire, c'est une vie entière qui change. Et quand on se plonge, quand on plonge, on commence à faire, on se lance, et on commence à faire teshuvah, c'est là qu'on se rend compte qu'en vérité, c'est pas si difficile que ça en a l'air. Et la Gemara Zaken, il pose la question. Il dit, mais comment ça se fait? Normalement, devenir religieux, c'est très dur. Il y a un juif qui fait teshuvah à l'âge de 20 ans, 30 ans, 40 ans, qui veut tout reapprendre. C'est comme si je dis à quelqu'un maintenant, reapprends toute ta vie, apprends, change de culture. Je dis, tu peux pas, c'est très compliqué. Comment ça se fait que la teshuvah, ça a l'air difficile, et c'est difficile, mais dès qu'on plonge, on voit que ça décolle. Vous savez pourquoi? Exactement avec la réponse de la musique. Parce qu'en vérité, au fond de nous, on est déjà doué pour ça. Même un juif qui se dit qu'il est loin de la Torah, et ça je réponds à ta question, même un juif qui se dit qu'il est loin de la Torah, en vérité, au fond de lui, il est déjà doué pour ça. Seulement, il ne le sait pas. C'est pour ça, dès que tu le plonges, tu lui dis, viens à la maison pour Shabbat, on va juste manger un repas, viens sans kippa, pas de problème. Tu veux pas te laver les mains, te lave pas les mains. Pas de problème. Viens quand tu veux. Et il vient. Donc officiellement, il est venu pour quoi? Il est venu pour un repas, pour une kaila, pour un je sais pas quoi, pour un couscous, pour un, d'accord? Il est venu pour bouffer, hein, excusez-moi, il est venu pour manger, ou pour des relations familiales, ou des relations amicales, d'accord? Il vient. Mais ce qu'on se rend pas compte, c'est qu'en vérité, comme sa neshama, elle est en éveil, et on est en train, alors de la même façon que pour réveiller l'oreille musicale de quelqu'un, il faut bien qu'il écoute de la musique. Son oreille musicale va pas se réveiller s'il écoute pas de la musique. De la même façon, pour réveiller l'oreille d'un juif, pour réveiller l'amour d'un juif, il faut saisir toutes les occasions possibles pour le mettre dans le bain. Toutes les occasions sont bonnes. Manger cachère, mettre les tefillines, mezouza, toutes les occasions que tu peux sont pourquoi? Parce que chaque occasion que tu prends, tu réveilles l'oreille du juif, tu réveilles les sentiments du juif, d'accord? Du juif par rapport à Kadosh Baruch Hu. C'est exactement ce que dit l'Allemand Zaken. Un juif, au fond de lui, aime Dieu. Parfois, il ne le sait pas encore. Mais il aime Dieu.
S'il aime Dieu, pourquoi on me demande de l'aimer?
Ah, très bien. C'est une très bonne question, ce qu'il faut, M. Benita. Très bonne question.
Bravo.
Très bonne question. Je vais expliquer votre question. M. Benita pose une question. Il dit, imagine-toi par exemple que tu me dis que tous les enfants juifs, de naissance, ils aiment le coca. Donc ça n'a aucun sens de venir leur dire, vous aimerez le coca. Il aime déjà le coca. C'est votre question.
À quoi ça sert toute cette pub?
À quoi? Donc, exactement, t'as pas besoin de pub, t'as pas besoin d'or, t'as besoin de commandement. On aime le coca, c'est terminé. Seulement, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai qu'au fond de nous, on aime, mais d'un autre côté, on a le Yitzhara, qui s'arrange pour prendre cet amour qu'on a envers Dieu et le mettre dans d'autres choses. Et Dieu, il sait ça, parce que c'est Dieu qui a créé le Yitzhara. Et c'est pour ça que Dieu, il te dit, toi, ton travail, c'est de constamment ne pas tomber dans le piège du Yitzhara et de reprendre cet amour et de le ramener vers Dieu.
Puisque c'est inné en moi.
Oui, c'est inné, mais...
Il ne peut pas l'enlever.
Monsieur Benita, je vais vous donner un exemple. C'est comme je reprends l'exemple des enfants. Un enfant inné, de façon innée, il aime ses parents. Maintenant, parfois, ça arrive que ça fait des années que ça tombe pas rond. C'est la guerre froide, d'accord, ou la guerre chaude, ou la guerre d'indifférence, comme on a parlé Shabbat. Ça peut arriver. Alors qu'est-ce qu'on fait? On dit, de toute façon, il aime, et c'est fini. À un moment, il faut réveiller l'amour. Ça s'appelle la même chose dans un couple. Ils sont mariés, pourquoi ils sont mariés? Parce qu'ils s'aimaient. D'accord? Alors quoi? Maintenant, ils sont disputés. Alors qu'est-ce qu'on fait? On dit, écoute, de toutes les façons, au fond d'eux, ils s'aiment, alors c'est fini. Non, ça marche pas comme ça. Il faut réveiller. Quand il y a un sentiment qui n'est pas développé, il faut le réveiller. Ça, c'est la mitzvah. La mitzvah, c'est de réveiller un sentiment qui existe déjà. Parce que sinon, on n'aurait pas pu me donner un ordre d'aimer Dieu. Parce que si je l'aime pas, je fais quoi? Je me pends? Comment tu peux me donner un ordre d'aimer Dieu? Moi, je dis que je suis Monsieur Benita, je te donne l'ordre d'aimer les crackers. Monsieur Benita dit, Monsieur Mendy, jusqu'à la tombe, j'aimerais pas les crackers. Je peux pas vous commander d'aimer les crackers. Vous aimez les crackers? Tant mieux. Bon.
Pourtant, on me dit de pas manger du porc.
Hein?
C'est bon?
Oui.
Pourtant, on me dit de pas manger du porc. Le porc, c'est bon?
Qu'est-ce que t'en sais?
Parce que tout le monde le ment.
Des millions de consommateurs, des milliards de consommateurs ne font pas. Il a raison.
Hein? Mais pourquoi? C'est la vérité.
Il a raison.
Ouais. Dis-moi.
Tout est bon, non?
Mais personne ne te dit.
Ça, ils disent, non? Ok. Alors, on continue. Donc maintenant, te dit l'Ed Bourazaken la chose suivante. Il te dit en vérité, sache, et on va continuer dans les mots, page 296. On n'est pas en train de te demander de faire quelque chose que tu ne peux pas faire. De faire quelque chose qui n'est pas à ta portée. De faire quelque chose qui est pour des rabbins ou pour des gens, des tzadikim ou je ne sais qui. On te demande quelque chose que tu as déjà. De la même façon que tu aimes tes parents, de la même façon que tu aimes Dieu. De la même façon que pour toi, aller dormir, c'est un besoin vital quand tu en as besoin. Manger, c'est un besoin vital quand tu en as besoin. De la même façon, t'attacher à Dieu et aimer Dieu, c'est un besoin vital. Ça, c'est le chidouche, je cours la semaine dernière. Maintenant, on va avancer un peu plus loin pour expliquer comment cette émouna et comment cet amour est caché en nous dans notre cœur. Et là, on va prendre les mots du Zohar, ce que je viens de commencer à vous lire. Oui, page 296. En haut, l'étude du 29 Nissan. Ve'ahava rabba ugdola mizo. On va parler maintenant d'un amour encore plus grand et encore plus fort. Encore plus fort que ce qu'on a dit avant. C'est-à-dire, c'est pas seulement qu'au fond de moi je l'aime. Plus fort que ça. Veillez, mais sous terre, cet amour est caché. Gamken, bechol nefesh mi Israël, birush amavotenu. L'amour qui est au fond de nous, en vérité, c'est pas stam qu'au fond de moi je pourrais aimer Dieu. Chacun de nous, au fond de lui, aime Dieu. C'est un fait. C'est une réalité. C'est un amour caché que nous avons en nous, qui a été hérité de nos parents. Pourquoi? Ça, on l'avait parlé, ça fait quand même un bout de temps, ça fait 2 ans qu'on avait étudié ça, dans le chapitre 18. Exactement, Chazak. On avait expliqué, Avraham Avinu, sa émouna, il l'a obtenu par ses efforts. Et Dieu voulait le récompenser. Avraham a dit, je veux pas de récompense. Avraham Avinu, il n'a pas eu la émouna en cadeau de Dieu. Avraham Avinu, la émouna et l'amour de Dieu, il s'est travaillé pour l'avoir. Il est né dans une famille d'idolâtres, tout ce que tu veux. Et pour devenir monothéiste et pour aimer Dieu, il a travaillé pendant des dizaines d'années. Et à la fin, Dieu voulait lui donner un cadeau. Avraham a dit, moi je veux pas de cadeau. Dieu lui a dit, je veux donner un cadeau, pas pour toi, pour tes enfants. Je veux donner un cadeau, que ce que toi, il t'a pris des dizaines d'années pour y arriver, avec ton effort, et que c'est pas dit que tes enfants feront le même parcours que toi. Eh bien, je te donne le cadeau que tes enfants auront le même amour que toi, mais de façon innée. Et ça, c'est un héritage. Ça veut dire, quand on dit un héritage, c'est expliqué dans le Shulchan Aruch, quand on parle d'un héritage, quel âge il faut pour hériter? Quand, par exemple, on va faire une transaction. Transaction, ce matin, on a parlé dans le cours de Mishnah de transaction. Pas de transaction. Quand je fais une transaction bancaire, quand je fais une transaction mobilière, une transaction immobilière, est-ce qu'un bébé peut faire une transaction?
Non, il faut être majeur.
Il faut être majeur. Tu ne peux pas faire une transaction. Au minimum bar mitzvah, et encore, en vérité, on considère que jusqu'à l'âge de 20 ans, c'est borderline. Parce que on considère que avant 20 ans, on ne sait pas à quel point tu es responsable. Très bien. Donc ça veut dire que pour pouvoir être en état de faire une transaction, acheter quelque chose, vendre quelque chose, donner quelque chose, il faut être au moins bar mitzvah. Par contre, dit la Gemara, et c'est le Shurano qui en parle aussi, pour l'héritage. Imaginez, Dieu préserve, un bébé qui perd son père, alors que le bébé donc a 2 semaines.
Tout de suite.
D'accord? À partir de quel moment commence l'héritage? Bonsoir.
Tout de suite,
il reçoit l'héritage.
Alors,
on va le mettre seulement comme, techniquement, il ne peut pas s'en occuper.
Voilà.
Alors, on va nommer un tuteur pour s'occuper de ses biens à la place. Au nom de.
Jusqu'à la majorité.
L'héritier. Jusqu'à ce que l'héritier puisse s'en occuper personnellement. Mais en vérité, à partir de quel moment les biens lui appartiennent? Tout de suite! Comme dit la Gemara, Tinok Ben Yomo. Même un bébé qui vient de naître à l'instant. On parle là-bas d'un cas, d'un bébé. Exactement. Un bébé que, à l'instant de la naissance, Dieu préserve, il n'y avait que sa mère et sa mère part. Dieu préserve. À quel moment il devient héritier? Tout de suite. Alors, 2 secondes. Avec ça, la Borazaka, il dit la même façon. Il dit, Quand l'Admorazaken te dit qu'un juif, il a en lui un héritage, c'est le mot qu'on a dit ici, un héritage qu'on a reçu de nos pères. Pourquoi on insiste sur le fait que cet amour est hérité de nos parents, hérité de Abraham, nos patriarches, hérité d'Abraham, Israël et Jacob? Si on avait dit que c'était un cadeau, il faut être en état de recevoir un cadeau. Un bébé ne peut pas recevoir de cadeau. Je donne un cadeau à un bébé, est-ce qu'il peut le recevoir? Un bébé ne peut pas recevoir de cadeau. Si c'était un achat, il peut pas le faire. Mais quand c'est un héritage, même un bébé peut hériter. Et c'est pour ça qu'on te précise ici, on te dit que l'amour qu'on a vers Akadosh Baruch Hu, c'est un amour qui est un héritage. Ça veut dire que depuis bébé, tu es déjà. Depuis que tu es dans le ventre de ta mère, tu as déjà ça. C'est pour ça qu'on appelle le terme héritage. Ça, c'est pas quelque chose que si tu fais ce qu'il faut, si tu vas apprendre à parler, etc., tu peux recevoir un cadeau. C'est même pas un cadeau. C'est un héritage. C'est un héritage que Dieu nous a donné. Automatiquement. Alors, c'est quoi cet héritage? Cet héritage, c'est l'amour de Dieu. Maintenant, attention, le Zohar va aller plus loin. Il dit, mais c'est quoi cet amour? Regardez les mots du Zohar, c'est magnifique. Hi mashekatu beraya me'emena. C'est ce qui est écrit dans Raya me'emena. Raya me'emena, c'est une section du Zohar. Il dit comme ça. Il dit que l'amour qu'on a envers Akadosh Baruch Hu, kebara de ishtadel batar avuy ve'ime. C'est comme un fils qui œuvre pour son père et pour sa mère. Derachim lan yater megarme ve'nafshe ve'ruchin. Qui les aime plus que ce qu'il s'aime à lui-même. Là-bas, le Zohar, bon, vous allez me dire peut-être c'est théorique, peut-être certains diront historique, mais le Zohar nous dit la chose suivante. Il dit, lorsqu'un enfant est confronté à une situation dans laquelle il doit sauver la vie de ses parents, mais pour sauver la vie de ses parents, il risque de mettre sa propre vie en danger. Est-ce que l'enfant y va? Est-ce que vous, en tant qu'enfant, vous l'aurez fait pour vos parents? Posez pas la question pour vos enfants, pour vous déjà. T'as une situation dans laquelle tu vas te mettre dans un danger, tu sais pertinemment que tu peux sauver la vie de tes parents, mais tu n'es pas sûr que toi, tu vas t'en sortir. D'accord? Que Dieu fasse qu'on soit jamais confronté à des situations comme ça. Qu'est-ce que fait l'enfant? Vous me posez la question à moi, je suis incapable de vous répondre, parce que j'ai jamais été confronté à une situation comme ça. J'ai jamais été confronté.
Oui,
le Zohar te dit la chose suivante. Tu sais ce qu'il fait un enfant? Un enfant, dès qu'il arrive à des situations extrêmes, ça c'est des situations dans lesquelles le cerveau ne réfléchit plus. C'est des situations dans lesquelles c'est l'instinct qui réfléchit. Mmh. Eh ben, normalement, on a toujours l'habitude que ce qu'il y a de plus fort chez un homme, c'est quoi? C'est l'instinct de survie. L'instinct de survie, c'est ce qu'il y a de plus fort chez un homme. Il n'y a rien de plus fort que ça. Et pourtant, il y a des choses qui peuvent être plus fortes que l'instinct de survie.
Il va aller vers les parents.
Aller sauver ses parents. Comment ça se fait? Tu dis, mais t'es fou, quoi. Qu'est-ce que t'as pris? Qu'est-ce que t'as pris d'aller mettre ta vie en danger pour tes parents? Dis le Zohar Kadosh là-bas. Il te dit, l'enfant, il te dit, mais. Alors, après, quand l'enfant, il a fait ça. Alors, là-bas, le Zohar, il écrit quelque chose. Il dit qu'après, cet enfant, concrètement, il a réussi à sauver ses parents. Et il a réussi à se sauver lui aussi. Et là, tout le monde, on écrit dans les journaux, enfin, le genre, pas de journaux, mais on écrit dans les journaux, les gros titres, vous avez vu cet enfant, c'est la star, il a donné sa vie, il était prêt à donner sa vie pour ses parents. Mais vous savez comment il réagit l'enfant? L'enfant, il dit, mais j'ai rien fait de spécial, c'est normal. Ça, c'est ce que dit le Zohar. Le Zohar dit, cet enfant, on va le voir, on dit, mais vraiment, quoi, la cabote, tu nous as bluffé, jamais on sera attendu. Vous savez ce qu'il répond l'enfant? Il dit, toi, ma place, t'aurais fait la même chose. Seulement, t'es jamais arrivé à ça, donc tu sais pas ce que c'est. Toi, ma place, t'aurais fait la même chose. Toi, ma place, t'aurais tout mis de côté. Pour tes parents, c'est normal. Alors maintenant, si vous voulez, au lieu de parler des parents biologiques, on va parler de notre père. Qui est notre père? C'est Hachem. Ça veut dire que, normalement, si on réfléchit bien, quand tu as une situation dans laquelle Dieu il te demande quelque chose, il faut sauver la vie de Dieu, entre guillemets. D'accord? Dieu il te demande de faire quelque chose. Il te dit, je te demande, même via Souline, je te demande de faire quelque chose. Je t'en prie, ne fais pas ça. Fais pas Talavera et je t'en prie, fais une mitzvah. Il te demande, Dieu. Et moi, le fils, donc lui, c'est le père. Moi, c'est le fils. D'accord? Ah oui, on est tous les fils de Dieu.
Il faut pas oublier le
saint. Nous, on rajoute pas la troisième chose, c'est tout. Alors, nous sommes tous les enfants de Dieu. D'accord? Donc, lui, c'est le père, moi, c'est le fils. Ok?
Rabbi, il avait pas l'histoire, là, quand il y avait quelqu'un qui lui a dit, il est où Dieu?
Il lui a dit, il est partout.
Il est partout.
Bien sûr. Il est partout. Bien sûr qu'il est partout. Alors, attendez. Maintenant, oublions les parents biologiques. On va parler de notre père qui est Hachem. Et l'enfant, c'est nous. D'accord? L'enfant, c'est moi. Mais c'est la vérité.
Oui, il y a pas de problème.
C'est la vérité. C'est pas parce qu'ils ont pompé sur nous qu'on va oublier.
Oui.
Mais vous savez que même le terme père, ça vient de chez nous.
Bah oui.
Mon père.
Bien sûr. La Gemara nous dit qu'à l'époque, les chachamim qui étaient d'un haut niveau, les chachamim qui étaient. Bon, il y avait les chachamim qu'on appelait par le prénom. Il y avait les chachamim qu'on appelait Rav, il y avait les chachamim qu'on appelait Rabbi, et il y avait les chachamim qu'on appelait Abba, père. Père Abba Shaoul, Père Shaoul, etc. Ils ont pompé de chez nous. D'où vous croyez qu'ils ont pompé? Qu'est-ce qu'ils ont pas pompé? Bon, refermons la parenthèse.
C'est intéressant, c'est
ça. Ah ben, mais c'est la vérité.
C'est les shadows.
Qu'est-ce que vous croyez?
Pompé. Oui. Quand on parle de sentiment, on parle plus de l'âme et pas du cœur.
Bien sûr. Parce que qu'est-ce qui aime Dieu? C'est pas mon corps qui aime Dieu. C'est mon âme qui aime Dieu. Là, on parle de l'âme. Le corps, c'est un corps, ça reste un corps. C'est l'âme, mon âme qui aime Dieu. Mais en vérité, rappelez-vous ce que j'ai dit la semaine dernière, quand je suis fatigué, qui est fatigué?
C'est mon corps.
Non, D'accord. Bien sûr, c'est mon âme qui est fatiguée. C'est mon. Ça veut dire comme ça. On sait très bien que quand on est fatigué, la partie la plus importante de la fatigue, c'est la partie psychologique. Et ça, on le sait. C'est pas un sorti que j'ai expliqué ça. On sait très bien qu'en vérité, la fatigue est souvent liée à la perception des choses. Ce que je perçois, que ça, je peux pas faire. Et dès que je me convainc, eh ben automatiquement, je suis plus fatigué. Parce que le corps, c'est un outil. Et un outil, tout dépend comment tu décides de l'utiliser et comment tu penses pouvoir l'utiliser. Tout est dans l'âme. Maintenant, l'âme, c'est pas l'âme, ça veut dire l'âme, c'est ce qui est au fond de moi. Alors, je reprends. Le Père, d'accord, et le Fils, on est d'accord, hein. Et il faut vous rentrer dans votre tête que Dieu c'est le Père et nous sommes les enfants, c'est tout. Et il y a un juif qui a fait du business et qui a pris ça et qui en a fait une marque de fabrique.
Il s'est mis à son compte, c'est tout. Ah, il s'est mis à son
compte. C'est un juif, ça. Bien sûr. Fait une affaire qui marche qu'aujourd'hui. Ah, c'est une bonne affaire. Bon, reprenons le sérieux. Ah oui, ça c'est une affaire qui a duré dans le temps. En tout cas, qui va s'arrêter avec Mashiach. Je reprends. Donc, Akadosh Baruch Hu, c'est le père. Nous sommes les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Ok. Est-ce qu'un enfant a besoin de s'expliquer pourquoi il aime ses parents? Non, il les aime. Est-ce qu'un juif a besoin de s'expliquer pourquoi il aime son père? Pourquoi il aime Hachem? Non! C'est automatique! Il a ça en héritage. Et pas seulement ça. Pas seulement qu'il aime Hachem. En vérité, j'aime Hachem plus que moi. C'est très fort, ça. Parce qu'en vérité, si on réfléchit bien, Dieu me demande, il me dit, je te demande, Mendy, de ne pas faire telle Avera, et je te demande de faire telle Mitzvah. Il me demande, c'est quelque chose. Maintenant, moi, j'ai pas envie. J'ai envie de faire l'Avera, et j'ai pas envie de faire la Mitzvah. Donc là, il y a un conflit entre quoi et quoi? Il y a un conflit entre les intérêts de Dieu et mes intérêts. Donc, entre l'amour de Dieu et mon amour propre. Mon amour propre me dit, écoute, tu t'aimes toi, il a qu'à parler lui, tu fais ce que tu veux. Et d'un côté, il y a l'amour de Dieu. Mais rappelez-vous ce qu'on a dit. Normalement, quand il y a un conflit, et quand on arrive à des situations dans lesquelles il faut sauver la vie de qui passe en premier? La vie des enfants, la vie du fils ou la vie des parents? C'est la vie des parents.
Mais dans cet exemple, ce que tu oublies, c'est que la vie des parents en question, tu les vois?
Oui.
Tu les sens? La vie d'Akadosh Baruch Hu.
Ça, c'est la question de M. Benita. C'est la question de M. Benita. C'est pour ça que c'est un effort. Il faut faire un effort d'aimer Dieu, parce qu'on voit pas Dieu.
Ah non, on voit pas.
On voit pas du tout.
On trouve pas. Hein, c'est transparent.
Ça à dire. Rabbi Levi Tzrag de Berditchev, il a dit comme ça.
On a une cloche sur
nous. Une fois Rabbi Levi Tzrag de Berditchev.
C'est une analogie aussi.
Une fois Rabbi Levi Tzrag de Berditchev, il est sorti dans la rue et il a vu un juif en train de faire une grosse avéra. Et vous savez, Rabbi Levi Tzrag toujours, il défendait les juifs, coûte que coûte. Et Rabbi Levi Tzrag, il était très embêté là, parce que là, le juif, vraiment, il a fait une avéra, je sais pas quoi, mais il a fait une big avéra. Et Rabbi Levi Tzrag, il sentait qu'il fallait qu'il défende. Parce qu'il fallait défendre, c'est pas qu'un juif qu'on attaque. C'est, en vérité, quand un juif fait faute comme ça, c'est le peuple gentil qui est attaqué. Alors Rabbi Levi Tzrag, il a levé ses yeux et ses mains vers le ciel, et il a dit comme ça. Il a dit, Dieu, il a dit, c'est pas normal. Il a dit, les plaisirs spirituels, tu les as écrits dans les livres. Et les plaisirs de ce monde, tu les as mis devant nos yeux. Je te garantis, Dieu, que si tu avais fait le contraire, si tu avais mis les plaisirs spirituels devant nos yeux et tu avais mis les plaisirs de ce monde dans les livres, personne n'aurait fauté.
C'est la vérité, la police.
Il a dit ça pour un peu atténuer le din qu'il y avait dans le ciel, si tu as une avéra comme ça, une avéra publique.
C'est vrai, s'il a fauté, dans le même temps, on nous dit, chacun il a le libre arbitre. Il a fauté, il a
libre arbitre. Oui, mais bien sûr qu'on a libre arbitre, mais vous comprenez, ça veut dire, il a raison, Michael, il dit, quand on parle d'aimer Dieu, c'est abstrait tout ça, c'est difficile, il y a un effort à faire pour le rendre concret. Quand on parle, le Yitzhara, quand il te propose une avéra, c'est du cash. Et moi, je te raconte pas des trucs après 120 ans, moi. Je te donne du cash, moi. Je le paye tout de suite, en comptant. Donc c'est difficile à discuter avec le Yitzhara. Parce que tu comprends, à l'autre, tu te dis, moi, c'est un placement à très long terme, on verra, tu verras à 120 ans, etc. 120 ans, il dit, 120 ans, le banquier, t'as un banquier qui te parle de 120 ans, et t'as un autre qui te dit, moi, je te fais du cash, moi. Même s'il te fait des magouilles, mais il fait du cash. Il te dit, regarde, je te montre l'argent, là. Je te montre tout de suite, c'est monté. C'est difficile à tenir devant ça. C'est pour ça qu'il faut se convaincre, comprendre qu'en vérité, c'est un piège. Tu crois que tu gagnes de l'argent, mais c'est de l'arnaque. C'est du Madoff. Voilà, je voulais pas dire ça. Mais, ok. Alors, on va continuer. Ki allo, av echad lekulanu, car nous avons un seul père. Pourquoi il précise ça, l'Admor HaZaken? Le Zohar qui a parlé de ce que je vous ai dit, c'est un Zohar qui parle sur Moshe Rabbeinu. La section Rayam et Emena du Zohar, c'est celle qui dit qu'un père qui aime que le fils il aime son père plus que lui-même, et de la même façon, un homme doit aimer Dieu plus que soi-même. Ça, c'est un texte que le Zohar dit dans la section Raya Memana.
Qu'est-ce qu'il y a de spécial, cette section?
Alors, justement, Raya Memana. Raya Memana, c'est une section, littéralement, c'est-à-dire le berger fidèle. On parle de Moshe Rabbeinu. Donc, quand un juif, il lit ça, il dit, attends, d'abord, tu m'amènes du Zohar. En plus, il m'amène la section du Zohar, section Moshe Rabbeinu. Wow. Tu veux que quoi, là? Qu'est-ce que tu veux? D'abord, tu me mets du Zohar. Après, tu mets Moshe Rabbeinu. Il dit, mais je suis pas Moshe Rabbeinu, moi. Sauf que là, de Bourazaka, tu dis un point très simple. Il te dit, mais, Av Echad le Kulanu. Nous avons un seul père. Ça veut dire quoi, nous avons un seul père? Ça veut dire que le même père de Moshe Rabbeinu, c'est le même père pour nous. Le même Dieu pour Moshe Rabbeinu, c'est le même Dieu pour moi. Donc, c'est pas que Moshe Rabbeinu, il a un Dieu, et moi j'ai un Dieu. Si on avait deux dieux différents, on aurait pu dire, bon, le Dieu de Moïse. Ah, le Dieu de Moïse, il est spécial, il a une relation particulière. Mais non. Le Dieu de Moïse, c'est le même Dieu que le mien. Donc si Moshe Rabbeinu, il a réussi à développer un niveau qui est en lui, pour avoir une relation avec Dieu, ça veut dire que moi aussi je peux le faire. Parce que c'est le même père, on est dans la même famille. Dans une famille de seconde. C'est-à-dire, imaginez, si vous êtes dans une famille, par exemple, dans laquelle vous êtes cinq enfants, d'accord? Imaginez que dans votre famille, il y a un Moïse et il y a vous. Et le Moïse, il est là, c'est le chouchou de papa, etc. et tout. Tu dis, mais attends, je comprends pas. Moïse, c'est le fils de papa et maman, mais moi aussi, je suis fils de papa et maman. Mm-hmm. C'est le même.
Hein?
Ah oui, mais tu comprends? Alors, c'est vrai que lui, il est chouchou, lui, il est, bon, lui, il est doué. Mais finalement, c'est la même matrice qui a fait les deux. On vient des deux de la même mère. On vient des deux du même père. On vient de la même source. Donc, en vérité, c'est juste une question d'effort. Alors, je dis pas qu'on va tous devenir des Moïse. C'est pas mon but. Mais ce que je veux dire par là, c'est n'oublions pas que nous sommes tous de la même famille. On a tous le même père. Et donc, ce que Moïse t'apprend, c'est que tu dis ce que moi je fais peut-être à un niveau élevé, auquel tu arriveras peut-être pas parce que tu n'es pas tzaddik, mais dans l'absolu, c'est, au fond de toi, tu aimes Akadosh Baruch Hu, parce que c'est ton père. Tu n'as pas besoin de t'expliquer pourquoi tu aimes Akadosh Baruch Hu. Un juif, il aime Akadosh Baruch Hu automatiquement, sans qu'il ait besoin de s'expliquer. Pour expliquer ça, hein, je vais illustrer ça avec une histoire de la Gemara. La Gemara, elle raconte, elle dit, hein, qu'est-ce qui se passe? Ah. Ça va, David? T'es avec nous?
Oui.
Alors, la page, c'est 296.
98,
là. Non, mais t'as le tome 1, là, David.
Ouais.
Tiens.
Bon, David, ici.
Ouais, je sais.
Vous
voulez savoir? Non, je préfère que tu...
Il est vieux, celui-là. Il a un problème. Avec ça,
je te voyais tourner les pages. Ouais,
tu imagines, avec ça, il a l'âge, comme dire. Bon, on verra vite, c'est pour ça.
Allez. Tiens, mais on va prendre un petit peu moins. Oui.
Bonjour, monsieur.
On a le même rapport de forme de super-mère.
Président, on ne s'est pas dopé.
Oui. Avec Dieu.
On doit être une chose. Super-mère. Pas d'accord. Avec Dieu.
Mais pourquoi pas? On peut être fâché avec tout le monde. Pas bien.
On
peut être fâché, je suis pas d'accord. Oui, je suis fâché.
Tu parles pas de d'émotion.
Je dirais pas qu'on chasse Shalom de. J'emploierai pas un terme. Je suis fâché avec Dieu.
Franchement.
Moi, je vois. Moi, des fois, je propose à des gens de mettre les tefillin. Et j'ai déjà eu des réponses, ça m'est arrivé quelques fois. Hein. Et c'est difficile à répondre à ça, je peux pas répondre à ça. Il dit, moi je suis fâché avec Dieu.
Ah.
Oui, j'ai entendu cette réponse. Mais je vais vous dire, c'est un niveau d'être fâché avec Dieu. Non, mais ça veut dire, c'est quelqu'un qui a une relation. T'en as qui dit, j'en ai rien à faire, je sais pas qui c'est, ça m'intéresse pas, ça me parle pas. Lui, il dit, non, je sais qui Dieu, mais je suis fâché avec lui. Mais je lui parle pas.
Si il est arrivé à ce niveau-là, ça veut dire qu'il s'est beaucoup investi.
Exactement. Voilà. Il s'est beaucoup investi, il a peut-être eu des déceptions. Alors bon, c'est vrai que des fois, c'est la émouna, il faut développer la émouna.
Mais moi, je pense que c'est plus stratégique que ça. Parce que le type qui va te dire ça, sachant ce que tu peux représenter, il cherche le dialogue, tout simplement.
Bien sûr. Oui, mais
il est pas seulement.
Oui, mais
dans
des fois, t'as des gens qui sont vraiment fâchés. Qui sont désaccords. Ok.
Ouais, mais là,
je dis que je voulais illustrer ça avec une histoire de la Gemara. Une histoire de la Gemara. La semaine dernière, c'était le 24 Tevet. 24 Tevet, c'est la Iloula de l'Admor HaZaken. J'en ai parlé aussi lundi dernier, jeudi aussi au cours des jeunes. Et Shabbat aussi, évidemment. Et là, maintenant, je vais raconter, donc on est maintenant, on est quelques jours après la Iloula de l'Admor HaZaken, l'auteur de ce livre. Donc on va raconter une histoire, telle que l'Admor HaZaken l'explique dans son ouvrage sur la paracha, Torah Or. Il raconte comme ça. Il ramène l'histoire de la Gemara. On raconte qu'une fois, Rabbi Yossé ben Kisma est tombé malade. Alors, Rabbi Hanina ben Teradion est venu pour le rendre visite. T'as qui est malade, tu vas le rendre visite. Un ami à lui. Rabbi Yossé ben Kisma est tombé malade. Rabbi Hanina ben Teradion est parti le rendre visite. Et il lui a dit comme ça. Rabbi Yosef ben Kisma, donc le malade, s'adresse à Rabbi Hanina. Il lui dit, Hanina, mon frère. Comme ça, il lui dit, Hanina, mon frère. Il lui dit, est-ce que tu ne sais pas que cette nation, Rome, c'est une nation que le ciel l'a amenée ici. C'est une nation que le ciel les a couronnés. Le ciel les a siégés ici. Et moi, j'entends, et pourtant, on sait très bien que Rome n'arrêtait pas d'interdire la Torah. Mais Rabbi Hanina, il ignorait tout ça. Il faisait quand même des cours de Torah. Il dit, et Rabbi Yosef, il dit, j'ai entendu que toi, tu es assis devant tout le monde avec un Sefer Torah. Il se baladait dehors dans ses cours avec un Sefer Torah dans ses bras comme ça. Il faisait les cours de Torah publiquement. Ouais. Il a dit, écoute, c'est Dieu qui a mis le règne des Romains. Est-ce que tu t'amuses pas un peu trop? Alors, c'est ce que dit Rabbi Yosef ben Kisma, le malade, Rabbi Hanina. Il lui dit, Hanina, mon frère, il lui dit, écoute, c'est Dieu qui a mis les Romains ici. Il fait attention. Fais attention que c'est là avec ton Sefer Torah dehors. Alors, il lui répond la chose suivante. Rabbi Hanina, il lui répond, il lui dit, Rabbi, mon maître, parce que c'est son maître. Il lui dit, Ma anil chaye wa la maba. Il dit, mais comment je mériterais la vie du Lamaba? Quoi, les Romains? Les Romains, mais comment je mériterais la vie du Lamaba? Je suis obligé d'enseigner la Torah. Alors, il lui pose la question, il lui dit, alors, comme les commentaires disent qu'en vérité, Rabbi Hanina, il est en train de poser la question à Rabbi Yossi, il est en train de poser la question, il lui dit, est-ce que j'irai au Lamaba? Il pose la question. Alors, c'est une question bizarre, parce que Rabbi Hanina, c'est un géant, qui non seulement, et lui-même, il était un grand tzadique, en plus, il enseignait la Torah à tout le monde, il mettait sa vie en danger, il était en prison, tout ce que tu veux. Il a eu des miracles, énormément de miracles. Par exemple, une fois, il avait pas d'huile à la maison pour les bougies de Shabbat. Alors, pour allumer. Donc, il a demandé, on dit que lui, il a dit au vinaigre. Sa fille, elle a trouvé que du vinaigre. Alors, elle a dit, le même Dieu qui a dit que l'huile va brûler, il va dire au vinaigre de brûler, ils ont allumé avec ses bougies de Shabbat. Donc, c'est un géant, c'est pas rigolo. C'est un géant. Et donc, Rabbi Khalil pose la question à Rabbi Yossé, qui est très âgé. Il lui dit, Rabbi, est-ce que j'irai au Lamaba? Alors, donc, la question est bizarre, évidemment. Mais la Morazaka va expliquer ce que veut dire la question. Alors Rabbi Yossi lui répond, il lui dit, est-ce que tu as fait une mitzvah dans ta vie? Réponse encore plus bizarre. Alors il répond, il lui dit oui. Il lui dit, une fois, j'ai préparé de l'argent pour la Seudat Pourim. Et sans faire exprès, j'ai inversé les bourses. Il y avait une bourse dans laquelle il y avait l'argent pour la Seudat Pourim, et une autre bourse dans laquelle j'avais de l'argent qui était pour les pauvres. Et j'ai inversé les bourses, j'ai pas fait attention. Et comme j'ai inversé, alors j'ai inversé, j'ai dit bon, tu sais quoi, ça part pour la tzedaka. Et j'ai distribué la tzedaka. Et donc j'ai pas parti me resservir de la tzedaka, parce qu'il aurait pu dire, attends, quand même, t'as donné une bourse qui n'était pas la tienne, enfin qui n'était pas la tzedaka. Donc non. Il dit, j'ai dit, si Hachem a fait comme ça, j'ai donné. Bon. Alors il lui a dit, dans ce cas-là, son rabbi lui a répondu, celui qui était malade, et il a dit, je me souhaite que ma part sera dans ta part. Je me souhaite avoir la même part que toi au Gan Eden. Ça, c'est l'histoire. Mon Razaka, dans son ouvrage sur Torah, il dit, cette histoire est bizarre. Il dit, je comprends pas. On a affaire ici à un juif. Un tzadik. Qui d'abord fait toutes les mitzvot. Qui fait aucune avéra. Qui donne sa vie pour Hachem, pour donner des cours de Torah. Et avec ça, il pose encore la question, est-ce que j'aurai une part au monde futur? Qu'est-ce qu'on a une part au monde futur? Et après, le pire, c'est quoi? C'est comment son maître lui répond, ce maître qui est malade, comment il lui répond? Il lui dit, est-ce que t'as fait une mitzvah dans ta vie, tu vois, Lucille? Et il lui sort une mitzvah, bon, c'est une mitzvah pas mal, mais c'est une mitzvah qu'il s'est inversé, il s'est trompé de bourse, etc. Bon, c'est une mitzvah qui est pas mal. Je veux dire, donner sa vie pour Dieu pour donner des cours de Torah alors que le Romain interdit et qu'il mette à mort, c'est beaucoup plus fort. Alors, c'est quoi cette question? C'est quoi cette réponse? Admon Razaken, il dit comme ça. Admon Razaken, il dit qu'en vérité, Rabbi Chalem Enteradion, la question qu'il a posée à son maître quand il a dit, Rabbi, est-ce que j'irai là-bas? Sa question était la suivante. Il dit, je sais très bien que je fais mes sirot nefesh, je sais très bien que je donne ma vie pour Hachem. La question est la suivante. Je me pose la question, est-ce que je le fais vraiment pour Dieu? Est-ce que vraiment je le fais pour Dieu? Ou est-ce que je le fais pour moi? Bien sûr que je sais très bien que je fais beaucoup de mitzvot, mais pour qui je le fais? Est-ce que je le fais réellement pour Akadosh Baruch Hu? Ça, c'est la question que c'est pour moi. Alors, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il lui a dit, est-ce que tu as fait une grande mitzvah dans ta vie? Et qu'est-ce qu'il a sorti comme mitzvah? Il lui a sorti cette mitzvah. C'est intéressant. Parce que c'est quoi la mitzvah qu'il lui a sortie? La mitzvah qu'il lui a sortie, c'est la mitzvah d'un cas dans lequel, sans faire exprès, il a fait une mitzvah. Et là, il aurait pu se dire, bon, j'ai pas fait exprès, je trompe de bourse, je reprends ma bourse, c'est terminé. C'est une mitzvah qui est venue par hasard que personne n'a vu. C'est pas un truc que devant tout le monde, il a donné cours de Torah, tout le monde a vu. C'est un truc, c'est entre toi et Hachem. Personne ne sera au courant. Si t'as pris la bourse et t'as récupéré l'argent, personne ne sera au courant. Et à l'arrêtement, il avait le droit de le faire. Y a pas de problème. Tu t'es trompé de bourse, tu reprends, c'est tout. Y a pas de problème. C'est entre toi et Hachem. Et là, Il a dit, Rabbi Chanina, il lui a dit, au moment où tu as dit l'argent, puisque je me suis trompé, ben, je le donne à Hachem, je ne pose pas de questions. À ce moment-là, dans le ciel, on a compris que tout ce que tu fais, c'est que pour Hachem. Et que tu n'as aucun intérêt dedans, aucun intérêt quelconque. Parce que ça, c'est quelque chose que personne ne pouvait voir. C'est ce qu'on va expliquer ici. Ce que je veux dire par là, c'est de la même façon. Je raconte cette histoire pour expliquer le fait que le niveau de Moshe Rabbeinu, c'est un niveau dans lequel il fait Messirut Nefesh et il donne sa vie pour Dieu sans aucun intérêt, sans même pas attendre le moindre retour, le moindre intérêt. Est-ce que nous, on est à ce niveau-là? Je ne sais pas si on est à ce niveau-là. Mais en tout cas, notre Neshama est conçu pour être à ce niveau-là. C'est-à-dire que la Neshama d'un enfant est conçu pour donner sa vie pour son père comme ça. Et de la même façon, la Neshama d'un juif est conçu pour donner sa vie pour Akadosh Baruch Hu d'une telle façon. Seulement, quand même, Morazaken, il dit, mais c'est là qu'on va arriver. Et je suppose que c'est la question que plusieurs d'entre nous ont. Tout ça a l'air tellement loin de notre réalité. M. Benita, il n'ose pas poser la question, mais ses yeux crient la question. D'accord ? Et qu'est-ce qu'il nous parle ici, Mendy, il est en train de nous raconter. Il est là, il donne sa vie pour Hachem, et etc. Plus que ses parents, plus que lui-même, comme si c'était pour ses parents, et il oublie tout, il n'a plus d'intérêt, et c'est que pour Dieu. Ah, come on.
Eh ben, il a exprimé.
Voilà.
D'accord. J'ai pas osé dire.
Voilà. J'ai dit, attends, dis-moi. Ça me parle pas, ces trucs-là. Ça veut dire que, tu me dis qu'au fond de moi, j'aime Dieu. Pourquoi pas? Why not? Pourquoi pas? Oui, j'aime Dieu, peut-être. Ben, je me sors des trucs, au fond de moi, j'aime Akadosh Baruch Hu, façon très profonde. Mazé, qu'est-ce qui se passe ici? L'Admor HaZaken sent cette question, et il va la poser tout de suite. Page en bas 296.
On ne pouvait pas avoir un cœur directement qui aime directement.
Sinon, il n'y a pas de travail. Sinon.
Ben voilà,
Regardez la suite. Regardez la suite, ce que dit l'Admor HaZaken.
On galère.
HaZaken, il dit comme ça.
À ce moment-là, tu es un ange.
On creuse, on court tout le temps.
Tous les dimanches, Michel.
Tous les jours, tous les dimanches.
Il dit, Ve'af, bien que, qui miouzev eizeu. Pour reprendre une expression de la Megillah. Qui est-il et quel est-il? Pour qui tu te prends? Asher Arev Libo, celui qui oserait en son cœur la Geshet le Hasig, de présumer être à un niveau, même atteindre Afil ou Chelek Echad Mini Elef, ne serait-ce qu'un millième Imadrigat Avadraim Emana de l'amour de Moshe Rabbeinu. Morzaké dit, mais qu'est-ce qu'on raconte là? Qu'est-ce qu'on est en train de raconter ici? Qui oserait prétendre atteindre même un millième du niveau de l'amour de Moshe Rabbeinu? De quoi on parle ici? Cependant, dit l'Admor HaZaken, Mikol Makom, néanmoins, Aré Efes Katseou, c'est très fort cette expression, page 297, Mikol Makom, Aré Efes Katseou, une quelconque partie, Veshemet Mineou, un temps soit peu, mais Rav Tuvo Oro, de la lumière de Moshe Rabbeinu, d'accord? Meir l'Iklout Israël illumine la communauté d'Israël Bechol Dor Vador dans chaque génération. Comme c'est écrit dans Tikkuni Zohar, Deit Pashtut et Bechol Dara Vedara, que l'émanation de Moïse se trouve dans les rabbis de chaque génération. D'accord? Les Anhar Alon pour les éclairer. Ça veut dire ce qu'il te dit ici, l'Admor HaZaken. Il te dit, je comprends ta question. Ta question, tu dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes des histoires comme ça, l'amour de Moshe? Je suis pas Moshe, moi. Qu'est-ce que tu me parles, Moshe, maintenant? Je suis pas au niveau de Moshe. Tu me sors le Zohar, section de Moshe Rabbeinu. Je dis, l'Admor HaZaken, même un millième de ça, on peut pas avoir. Mais un peu, quand même, de cet amour, on peut avoir. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a pas mis seulement un Moshe Rabbeinu à 3300 ans. Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que la Neshama de Moshe Rabbeinu continue dans chaque génération. Dans chaque génération, les sages de la génération, les grands sages de la génération, sont l'étincelle de la Neshama de Moshe Rabbeinu. Et eux, ces sages, nous aident, justement, à développer l'amour de Dieu qu'on attend nous. Ça c'est le rôle d'un rabbi. Quel est le rôle d'un rabbi? Là, il pense que le rabbi il est là pourquoi? Il est pas là pour donner des bénédictions. C'est pas un distributeur de bénédictions. Il va donner. Si t'as un problème, tu vas le voir. Tu dis une bracha. Il va donner une bracha. Pas de problème. Mais c'est pas ça son rôle principal. Le rôle principal d'un rabbi, d'un tzaddik, le rôle principal de l'émanation de Moïse dans chaque génération, d'accord? C'est pas d'être là pour te donner des bénédictions. C'est pas pour ça qu'il est là. Il est là d'abord et avant tout pour t'aider à développer l'amour de Dieu qui est en toi que tu n'arrives pas à développer. Alors bien sûr que jamais j'arriverai à le faire comme un rabbi. Jamais j'arriverai à le faire comme Moïse. C'est pas possible que je suis pas à ce niveau-là. Mais il va t'aider au moins un petit peu. Efes Katseou. Efes Ketsou, hein, vous avez vu, monsieur, il a dit les expressions ici qu'il y a ici, c'est de l'hébreu, maman, c'est recherché. Efes Ketsou, veshemet minehu. Même un peu de ça. Ça veut dire que le tzadik, il dit, je sais très bien que tu seras pas comme moi. Mais si j'arrive même un petit peu, un tout petit peu, à te montrer que tu aimes Akadosh Baruch Hu, eh ben, même ça, je vais le faire. En fait, je vais m'arrêter un peu sur ça. D'abord, je voudrais raconter une histoire, je raconte ici dans ce livre, pour illustrer le fait qu'un juif, en vérité, au fond de lui, il aime Akadosh Baruch Hu, et que le rôle d'un tzadik, c'est juste de dévoiler ce qui est déjà dans son cœur. C'était quelque chose qui a été publié, Kol Israël. Vous savez, Kol Israël, c'est la radio, une des radios les plus connues en Israël, Kol Israël. Là-bas, ils ont raconté, donc, une fois dans Kol Israël, c'est un peu l'équivalent de France Info.
Dans un bateau.
Hein?
Le
1?
Kol Israël, pas dans un bateau.
Non. Pas à Rutsheva. Kol Israël. Kol Israël, c'est la radio officielle. C'est la première radio. Première radio, n'est-ce pas? C'est la première radio en Israël.
On l'écoutait sur les grandes ondes avant.
Oui, c'est l'équivalent de France Info ici. Enfin, sans vouloir faire de
publicité.
Là-bas, écoutez bien. Là-bas, ça a été publié. Une fois, il y a eu une fois donc à Kol Israël. Dans les infos, ils ont publié que dans un des pays de l'Est, d'accord, il y a eu 3 jeunes Israéliens qui ont été arrêtés par la police locale. Je sais pas si c'était en Inde ou je sais pas où, qui ont été arrêtés, en tout cas dans l'Est, qui ont été arrêtés par la police locale parce qu'ils faisaient du business de drogue. Vous savez, là-bas, ils rigolent pas avec la drogue. Le problème, c'est que, étant donné, c'est une vraie histoire qui a été publiée à Kol Israël, ça fait quelques années. Étant donné que le pays où ils ont été arrêtés, c'est un pays musulman, avec des lois très très dures, donc on les a pris au jugement, et là-bas, au jugement, on leur a dit, votre verdict, c'est la mort.
Peine de mort,
on va vous tuer. Seulement, on leur a donné une possibilité aux 3 Israéliens, on leur a dit, on vous donne une opportunité, si vous voulez, vous pouvez vous convertir à l'islam. Les trois ont répondu, sans hésiter une seconde, et c'était publié. C'est eux-mêmes les autres qui ont publié. Ils ont dit, on est prêt à mourir, en aucun cas, on veut nous convertir. Donc le problème, on allait les mettre à mort. Et c'est à ce moment-là que le consulat israélien est rentré dans l'histoire, et qu'ils ont fait toutes sortes de combines sous la table, d'accord? Jusqu'à ce qu'à la fin, au lieu de les punir par la mort, on les a punis par l'expulsion de ce pays. Ben évidemment, c'est ce qu'on attendait. Donc c'était la punition. D'accord? Donc on les a renvoyés en Israël. Ils sont arrivés en Israël. Évidemment, quand ils sont arrivés en Israël, tout le monde les attendait. Parce que ça avait fait un tollé, tout le monde en parlait. Alors, qui c'est qui les attend? D'abord, les journalistes. Les journalistes, ils sont là, ils attendent avec les caméras, ta 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 ta. Et donc, ils se font interviewer. Et là, il raconte, le Rav qui écrit ce livre sur le Tania, il raconte, il dit, il était dans l'autobus, et il entend à ce moment-là, il entend, vous savez, dans l'autobus en Israël, toujours la radio, et il entend la radio Kol Israël, il entend comment, à un moment, on interview un de ces 3 jeunes qui vient d'arriver en Israël. Et celui qui l'interview, il lui pose une question très simple. Alors les deux sont pas religieux, hein. Il lui pose la question, il lui dit, est-ce que tu connaissais quelque chose du judaïsme avant? Est-ce que tu connaissais quelque chose? Alors, vous savez ce qu'il répond le jeune homme, un de ces 3? Il dit, je vais être honnête avec vous. Je connaissais exactement la même chose de Moshe et de Mohamed. Et il n'a même pas dit l'Avdil. Ça veut dire que je ne connaissais rien. Je connaissais ni Moïse, ni Mohamed. L'Avdil. Alors, celui qui l'interview, il pose la question. Il lui dit, dans ce cas-là, pourquoi tu étais prêt à mourir? Au point, parce qu'on allait le consulat, il t'a sauvé, mais ça aurait pu ne pas arriver. Tu sais, là-bas, il rigole pas, là-bas. Là-bas, il coupe la tête, il discute pas. On pose pas de questions. Il dit, qu'est-ce qu'on a à faire de dire que pendant quelques instants, de dire que t'étais prêt à te convertir à l'islam? Qu'est-ce qu'on a à faire pour quelques instants? Qu'est-ce qu'on a à faire? De toute façon, tu sais très bien que tu vas dire que tu te convertis. Et après, tu sais très bien qu'il y a une sorte de quelques semaines, tu rentres chez toi et t'oublies tout. Pourquoi t'as pas pensé à ça? Qu'est-ce que ça te coûte? Pourquoi t'as pas fait ça? Vous savez ce qu'a répondu le jeune homme? Il a dit, je sais pas quoi vous dire. Je suis né juif et je voulais mourir juif. C'est tout. C'est la chose qui m'est passée par la tête. C'est très intéressant parce que la même phrase, ça c'est ma mâche, ça a été publié en Israël. Ni celui qui a interviewé religieux, ni celui qui a été interviewé religieux, c'est pas religieux. Il était en train de faire du business de drogue, je sais pas où, dans l'Est. Et c'est la même chose, vous savez, quand Daniel Pearl, à la Vache à l'homme lui aussi, exactement. Qu'est-ce qu'il a écrit sur sa tombe? Je me rappelle plus le texte exact, mais le sens du texte était je suis né juif et je suis mort juif. Et lui aussi, il a dit clairement, ça veut dire que vous savez, il le laissait parler à la fin pour dire, et c'est la phrase qu'il a dit. Il a dit, je suis né juif, je suis mort juif. Ça veut dire que bon, il était journaliste, il a fait des tas de choses, etc. Je suis né juif, je suis mort juif. Comment tu peux expliquer ça? C'est ce qu'on est en train d'expliquer. Un juif, au fond de lui, il aime Dieu. C'est, au fond de lui, il sait très bien qu'il y a une seule adresse, c'est Dieu. Seulement, parfois, dans sa vie, il y a des choses qui font qu'on oublie. On oublie un peu qui on est, on oublie un peu qu'est-ce qu'on aime, on croit qu'on aime autre chose. Mais dès qu'arrive un moment de vérité, automatiquement, tout revient. Et automatiquement, on est autant religieux que Moshe Rabbeinu à ce moment-là. Parce qu'il a dit Av Echad Lekulana. Bien sûr, Moshe Rabbeinu, il dépasse. Mais Av Echad Lekulana, on a le même père. On a le même père pour tous. Vous savez, il y a une autre histoire aussi qui est racontée sur ça pour expliquer à quel point chacun de nous aime Akadosh Baruch Hu. C'était pendant la Shoah. Pendant la Shoah, il y avait une maison, il y avait un immeuble dans lequel il y avait au rez-de-chaussée des jeunes filles juives qui habitaient, qui n'étaient pas du tout religieuses. Et à l'étage, il y avait des gens religieux qui habitaient, les premiers étages, deuxième étage. Maintenant, ces jeunes filles qui habitaient au rez-de-chaussée, c'était des jeunes filles de mauvaise fréquentation. Et du coup, il y avait la fête, vous comprenez ce que je veux dire, tous les soirs chez elles à la maison. Et bien sûr, c'était à chaque fois des scandales que les juifs religieux faisaient, parce que du moment, c'est compliqué, ils ramenaient leurs enfants, et tu passes par là, t'entends du bruit, t'entends des cris, t'entends des je sais pas quoi. C'est très compliqué, c'est compliqué. Et donc, à chaque fois, donc, les religieux, ils faisaient des scandales, la police, etc., et la totale. Et à tel point que c'est devenu une habitude, je cautionne pas ce qui s'est passé, mais c'était la réalité, c'est devenu une habitude que lorsque les gens, ils passaient devant la maison de ces jeunes filles, d'accord? Les gens, ils passaient, ils crachaient. Ils crachaient, ils montaient chez eux. C'est comme ça. Pendant des années, ça continuait ça. Pendant des années, les jeunes filles habitaient là, et tous les gens qui passaient, ils crachaient devant, ils montaient chez eux. Comme pour dire le dédain qu'ils avaient pour ça. Ce qui s'est passé, c'est que des années plus tard, il y a eu la Shoah. Et quand il y a eu la Shoah, les Allemands venaient pour faire les rafles. Et ils sont rentrés, et ils ne sont pas doutés que ces filles étaient juives. Donc ils leur ont dit, qui est juif qui habite ici? D'accord? Bon, je ne sais pas ce qu'ils ont fait pour fabriquer là-bas, mais en tout cas, ils leur ont posé ces questions. Et elles ont répondu d'un calme, j'ai pas envie de dire tibétain, elles ont dit, il n'y a aucun juif qui habite ici. Personne. Tous ceux qui habitent là, c'est les Allemands, etc. Et ils ont répondu d'un tel calme, et en plus, elles n'avaient pas l'air du tout de lutte, donc ils ont cru, ils sont repartis. Alors, bien sûr, l'histoire a été connue tout après, et les religieux sont partis les voir, ils ont posé la question, ils ont dit, d'abord, on vous remercie, on s'excuse pour tout ce qu'on vous a fait. Mais qu'est-ce qui vous a pris? Il suffisait même pas d'un mot. Un regard, de dire. et vous serez débarrassé de ceux qui vous pourrissent, enfin ceux qui vous pourrissent la vie, en tout cas ceux qui vous crachent dessus, ça fait des années. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils ont répondu, ils ont dit à l'instant où ça s'est passé, on avait une seule chose dans la tête, on est juif. On n'y a pas pensé ni avant, ni maintenant. Mais au moment où ça s'est passé, au moment clé, on avait une seule chose dans la tête, on est juif. Donc comporte-toi comme une juive, c'est tout. Ça montre qu'il y a des situations dans la vie, des situations extrêmes comme ça dans la vie, dans lesquelles c'est un instinct, l'instinct du déité ressort, tu peux rien faire, il est là. Seulement, le problème, c'est que parfois, il faut attendre des grands moments pour ça. On sait, moi j'étais pas né, mais on me dit que quand il y a eu la guerre des six jours, et la guerre de Kippour, mais surtout la guerre des six jours, apparemment c'était un moment de grande fierté juive. Même en France, que des gens qui étaient très très loin, et des artistes, et qu'il y avait Herbert Pagani, etc. Mais il y en a beaucoup d'autres, qu'apparemment même des grands qui étaient complètement assimilés, c'est un moment dans lequel il y a eu un retour très très profond. Un retour dans lequel finalement, ils admettent, ils disent, je suis juif. On a vécu ça un peu en France, après les attentats de...
Ils ont revendiqué leur identité.
Exactement, mais après les attentats de Hyper Kasher, on a eu un peu ça. On a eu un peu ça des grandes figures, d'accord, des grandes figures, des gens qui sont très respectés, chez les goyim, etc. On a eu des gens comme ça qui ont affirmé clairement leur judéité, chose qu'ils ne faisaient pas avant. Seulement, c'est ce que te dit l'Admor HaZaken. Quel est le problème? Plusieurs qui disent clairement qu'ils sont juifs, et qui ont été critiqués pour ça d'ailleurs. Qui étaient critiqués, mais qui ont affirmé clairement, je suis juif comme eux, je suis exactement comme eux, et c'est tout. Alors, ce que tu dis ici, l'Admor HaZaken, tu dis le problème, c'est, nous on n'a pas envie d'attendre, d'arriver à des situations extrêmes, pour que cet instinct du déité se réveille. Parce que l'instinct du déité de ces jeunes filles juives, de ces jeunes auxquels on a proposé de s'islamiser, et de ces penseurs, etc., de nous tous, c'est un instinct qui s'est réveillé à un moment clé, à un moment fort. Mais est-ce qu'il faut attendre un moment fort? Des moments forts dans la vie, il y en a combien? Très très peu. Ça se compte sur le doigt d'une main. Alors, ça veut dire que c'est des moments forts dans lesquels, à ce moment-là, tu aimes Dieu comme Moïse. Oui, mais est-ce qu'il faut attendre ces moments forts? Comment faire pour ne pas avoir besoin d'attendre ces moments forts? Ça, c'est la réponse que donne Admor HaZaken. Admor HaZaken, il te donne la réponse, il te dit, la réponse, c'est quoi? c'est que la seule façon pour avoir ça dans les autres moments, cet amour vers un Kadosh Baruch Hu, même dans un moment dans lequel tu n'es pas forcément, dans un moment dans lequel c'est pas un moment fort, la seule façon, c'est d'être attaché à l'étincelle, d'être attaché à l'émanation de Moshe Rabbeinu. En clair, ça veut dire, d'accord, on va dire les Chaïm, en clair, ça veut dire être attaché à un rabbi. Il n'y a pas de secret. C'est-à-dire, tu veux aimer Dieu comme il faut, même quand il n'y a rien de qui se passe, tu dois être attaché à un rabbi.
Ça veut dire quoi, être attaché à un rabbi?
Être attaché, ça veut dire comprendre que tu ne peux pas être juste seul dans ta relation avec Dieu. Tu n'arrives pas. Parce que quand tu es seul avec
Dieu,
tu as besoin de quelqu'un qui te trappe. C'est même pas un guide. C'est encore une erreur, tu vois. C'est pas une erreur, c'est une erreur. Mais je dirais que la définition de Moshe, c'est même pas guide. Berger. Ça veut dire que c'est celui qui te prend, qui t'apprend à aimer Hachem. C'est tout, il te tire. Et c'est un travail qui est très très long, mais c'est un travail qui marche. Pourquoi? Parce qu'en vérité, au fond de nous, on aime Akadosh Baruch Hu. Seulement, c'est quoi le problème? Là, on va aller dans les mots. C'est quoi le problème? Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est Rak seulement. Je suis en bas de la page 197. En vérité, on n'a pas besoin de Moïse. En vérité, en théorie, au fond de moi, j'aime Dieu exactement comme Moïse. Ah, on est de la même famille. Dieu c'est son père, Dieu c'est mon père. On a le même père, c'est mon père. Je suis ton frère. C'est ma mâche, on est des frères. Alors seulement quoi? Le problème c'est quoi? C'est que l'amour qu'on a envers Akadosh Baruch Hu est un amour qui est caché. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Donc comme c'est un amour qui est caché, donc concrètement, il est tellement caché que parfois on n'est même pas au courant qu'on a cet amour. On n'est même pas au courant, mais en vérité cet amour est en nous. Rappelez-vous, pour ceux qui étaient là au cours, on avait fait dans le cours, c'était pas la semaine dernière, c'est la semaine d'avant. Vous vous rappelez l'exemple du voleur? On a dit que le voleur, vous rappelez, le voleur, quand il va commettre son larcin, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mon Dieu, aide-moi. Comment c'est possible qu'il dise ça? C'est logique, ça? Alors, de deux choses l'une. Si tu crois en Dieu, pourquoi tu voles? Et si tu crois pas en Dieu, pourquoi tu invoques Dieu? Qu'est-ce qui se passe? Alors, on aurait pu dire, bon, c'est une routine, il appelle Dieu comme ça parce qu'il a l'habitude, sa mère lui a appris. Non. Parce qu'en vérité, un juif, au fond de lui, il sait que quand il en galère, il y a une adresse, c'est tout. Cette adresse, c'est à Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est au fond de lui.
Allô, papa?
Hein? Ah, exactement. Allô, papa? C'est-à-dire, même si, exactement, mais c'est vrai. Allô, papa? Voilà. C'est-à-dire, même si 5 minutes avant, il est sorti de la maison, il t'a insulté, il est en galère maintenant, il s'est cassé la figure, il sait exactement quel numéro de téléphone il doit composer. Même si t'as insulté il y a 5 minutes. T'as insulté, t'as tous les noms, et il en pensait beaucoup plus. D'accord? C'est pas grave. Ça, c'est ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il pense. Il a dit ça. Mais il sait exactement que quand il y a un problème, il y a une adresse. Seulement, on n'a pas envie d'attendre les problèmes.
Quand t'es dans le besoin, tu l'appelles.
C'est pas seulement dans le besoin. C'est pas seulement que j'ai pas le choix. C'est qu'au fond de lui, il sait qu'il y a une adresse. C'est tout.
Mais il t'attend.
Oui, bien sûr que je dis,
il t'attend. Il te tend la perche.
Alors, maintenant, te dit l'admorazaken, la chose suivante. Je tourne la page, 298. Maintenant, il y a une autre question qu'on doit se poser. Ok, donc là, je fais le point ce qu'on a expliqué depuis le début du chapitre 44. Alors, point par point. D'abord, on a expliqué que aimer Dieu, c'est quelque chose d'inné en nous. De la même façon que j'ai besoin de dormir, j'ai besoin de manger, mon âme a besoin d'aimer Dieu. Ensuite, on a expliqué une chose très importante, que c'est inné en moi de faire passer les intérêts de Dieu avant mes intérêts, comme un fils fait passer les intérêts de son père avant ses intérêts. Deuxième point. Troisième point, on a expliqué, tu vas dire, ah mais pourtant, ça c'est le niveau de Moïse! C'est pas un autre niveau! Qu'est-ce qu'elle dit là de Morazaken? Il te dit, quand même, un peu de ce niveau-là, tu dois avoir en étant attaché à un tzaddik. Maintenant, quatrième chose que dit le Morazaken. Je suis à la page 298. Il dit, là, t'as un quatrième piège. Lui, il te s'arrête, il te dit, ouais, mais je comprends, d'accord, c'est possible. Mais à quel prix? C'est très, très dur. C'est très, très dur de dévoiler cet amour qui est caché envers Akadosh Baruch Hu. Est-ce que, bien sûr que c'est possible. Tout est possible. On peut aller sur la Lune aussi, tant qu'à faire. D'accord? On peut aller sur Mars aussi, un jour, on y arrivera. Mais il y a le Tsara, il te dit, mais est-ce que c'est quelque chose que tu peux atteindre? Est-ce que c'est pas quelque chose qui est trop compliqué? L'Admor HaZaken répond à cette question. Et pour répondre à cette question, page 298, pour répondre à cette question, l'Admor HaZaken va reprendre un pasouk qu'on avait dit au premier cours de Tania. C'est même pas le chapitre 1. C'était l'introduction du Tania. Regardez ce qu'il va dire ici. Là, il va répondre à la question. Ouléotsi a vaso amsuteret meilem vester alagilo. Pour faire sortir cet amour qui est caché de l'état de voile et pour Et donc elle est dissimulée. Et pour la dévoiler, elle a guil ou lieu, bégalglibomocho, lo niflet velo rechokai. Ce n'est pas quelque chose qui est hors d'atteinte, et c'est pas quelque chose qui est lointain. Et la karov adavar meod beficha au vilvafra. C'est une chose qui est très proche pour toi dans ta bouche et dans ton cœur. L'action, j'y arrive. Exactement. Maintenant, on comprend beaucoup mieux. On comprend beaucoup mieux pourquoi Moshe Rabbeinu rassemble les Bnei Israël. Parasha et Nitzavim. Le jour de sa mort. Le jour de son départ de ce monde. Moshe Rabbeinu rassemble tout le peuple juif. Et il leur dit, écoutez bien ce que je vais vous dire. L'oniflatimimecha. Ce qu'on vous demande, c'est pas très très lointain, c'est pas dans le ciel. Kikarov elecha, c'est proche de toi. Qu'est-ce qu'il veut leur dire, Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, ce qu'il veut leur répondre, c'est la question qu'on est en train de poser ici. Il est conscient que les Juifs, ils sont en train de dire, ah bon, Moïse, il va partir maintenant. D'accord. On a eu un grand maître. Il était géant, ce maître. Il y a un grand maître géant. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à moi? Moi, je suis quoi, tout ça, moi? Un grand sadique, Mazal Tov. Et moi, je suis quoi, maintenant, tout ça? C'est pour ça que Moshe Rabbeinu leur dit, ne croyez pas que c'est quelque chose qui est que l'apanage de géants et qui est que pour les grands tzadikim et que vous autres hommes du peuple ne pourrez pas atteindre ça. C'est faux. Kikarov elecha, tu peux atteindre. Comment je peux atteindre les Mekadosh Baruch Hu? Regardez tout de suite Admor HaZaken. Daïnou, ça veut dire, et là il va nous donner la technique. Daïnou, ça veut dire, liot ragil al leshono. Ce qu'on attend de toi, ce qu'on attend de moi, ce qu'on attend de chacun de nous. D'accord? C'est quoi? Ce qu'on attend de chacun de nous, c'est liot ragil al leshono. D'avoir l'habitude sur sa langue. C'est une expression talmudique. Ça veut dire d'avoir l'habitude de dire et de penser vekolo dans sa voix les horaires kavanat tibo umorom. En fait, il faut s'habituer à penser à Dieu. S'habituer à parler de Dieu. S'habituer à dire tout le temps Bezrat Hashem, Baruch Hashem. Mais pas seulement le dire comme ça. D'accord? Mamash, le penser. Pensez réellement, sincèrement. Regardez ce qu'il va dire ici. Les ahamik, regardez la suite. Les ahamik marchafto. Approfondir sa pensée. Bechaye achaim ensov baruchu. Dans Dieu qui est la vie de la vie. Le source de la vie. Ki ou avinu mamash amitim kochayenu. Il faut réfléchir à ça. Ne crois pas que c'est inné. Bien sûr que c'est inné en toi. Mais ne crois pas qu'un bon matin tu vas te lever et tu dis, ah bah tiens, oui, ça y est, j'ai le déclic, c'est bon, j'ai compris. Dieu, c'est Dieu. Et je dépends de Dieu. Ça marche pas comme ça. C'est un travail de longue haleine. C'est un travail que tu répètes tous les jours dans ta tefila, dans ton étude, dans ton vécu. C'est un travail de tous les jours. Tu répètes. Depuis que t'es gosse.
Il faut un support.
Non. C'est ce que te dit. Non, c'est faux. Excuse-moi de te reprendre. C'est faux. L'Admor HaZaken te dit le support. Non. T'as vu ce qu'a dit l'Admor HaZaken? L'Admor HaZaken te dit le support, c'est même pas la Torah. Le support, c'est même. Non, mais c'est pas ça. Le support, c'est même pas la Torah. Le support, c'est même pas la prière. Alors, le support, c'est tout.
L'action.
C'est tout. Toute ta vie. T'habituer toute ta vie à essayer de mettre Dieu dans ta vie. C'est un travail d'une vie. Mais progressivement, à force de faire, ça finit par sortir. À force de dire à quelqu'un, je t'aime, tu finis par l'aimer. Mais ça, c'est la condition qu'au fond de toi, tu l'aimes déjà.
Il faut le manuel. Hein.
Si tu répètes toute ta vie, je t'aime à quelqu'un que tu n'aimes pas au fond de toi, c'est mort.
Il faut la notice.
D'accord? Mais Dieu, au fond de toi, tu l'aimes déjà. Donc à force de répéter, à force de réfléchir, c'est inné.
Mais je lui ai dit une fois, pourquoi je vais répéter à chaque fois?
Parce que c'est s'habituer.
Ça vous connaissez, c'est comme une fois.
Vous l'avez dit une seule fois.
Exactement. C'est vrai. Monsieur Benita, je vais vous raconter une blague qui va dans ce sens. Une fois, il y a un couple qui a des problèmes de Shalom Bayit. D'accord? Donc ils vont voir le Rav. Le Rav, il convoque, il leur parle aux deux. Il parle à l'homme, il parle à la femme, etc. Ensemble. Bon. Après, il parle à la femme. Séparément. Il dit, bon, dites-moi, qu'est-ce qui vous dérange? Elle dit, bon, voilà, ce qui me dérange, c'est qu'il me dit pas qu'il m'aime. J'ai pas l'impression qu'il m'aime, il me dit pas qu'il m'aime. Bon, alors le Rav convoque le mari. Il dit, ta femme, elle dit que tu lui dis pas que tu l'aimes. Le mari dit, écoutez, moi quand on s'est marié, je lui ai dit que je l'aime. J'ai pas changé d'avis. Si j'avais changé d'avis, je l'aurais dit.
Voilà.
Ah oui, c'est logique. C'est un Marocain, ça.
Non. On peut transposer cette histoire sur...
Oui, évidemment. C'est ce que dit l'Admor HaZaken. Alors, le problème, c'est quoi? C'est que là, en vérité, on est en train de nous demander de simuler. C'est ce qu'on est en train de nous demander là. Là, on te dit, même si tu sens pas que tu aimes Dieu en vérité au fond de toi, même si tu sens pas que tu aimes pas, parle de ça, parle, juste parle de ça, pense à ça, et joue là. Oui, mais quand même, est-ce que c'est pas quelque part c'est simulé ça? Ça s'appelle simulé. Ça s'appelle l'autosuggestion. Ça s'appelle tu t'auto-convaincs de quelque chose qui est faux.
Tu mens à toi.
C'est la méthode. Tu mens quand même. Quoi,
voilà.
Exactement.
C'est la méthode des communistes, l'Avdil, de dire à force de répéter 50 fois un message, 50 fois un mensonge, il devient vrai. Alors quelque part, est-ce qu'on n'est pas en train de faire un peu ça? Ça veut dire, moi je viens voir la Admora Zaken, je dis voilà Rabbi, j'ai un problème, j'arrive pas à sentir que j'aime Dieu. Il dit, écoute, parle de Dieu, pense à Dieu, lis sur Dieu, écris, réfléchis sur Dieu, etc. Et avec le temps ça va venir. Tu vas te comprendre. Oui, mais attends, mais est-ce que c'est pas quelque part, je suis pas en train de me mentir? Tu dis la Admora Zaken, il te dit non, tu dis pas du tout. Dans quel cas c'est un mensonge? C'est un mensonge quand en réalité, au fond, le toi tu ne l'aimes pas. Quand tu, au fond, le toi tu ne l'aimes pas et que tu te forces à dire quelque chose que. Qui est un mensonge. Là, je te dis, oui, c'est le communisme, ça. C'est-à-dire, tu répètes un mensonge, qu'est-ce qui devient vrai? Mais si je te parle de quelque chose qu'en vérité, au fond de toi, tu aimes déjà, et que je te demande de te mettre en condition, pas de simuler, de te mettre en condition pour finalement exprimer ce que tu es déjà, ça n'a rien à voir. C'est autre chose. Ça n'a rien à voir. Et ça, c'est quelque chose que tu dis à Morazaken. Là, tu te dis, oui, mais combien de fois je répétais ça? Combien de fois je répétais? Est-ce que je répétais ça une fois, deux fois, 50 fois, 100 fois? Combien de fois je répétais? Il dit l'Admor HaZaken la chose suivante, on va lire ensemble. Il dit où les horaires et lava ahava ka ahavat aben el av. Je dois faire un effort, et c'est un effort de tous les jours, hein, de penser à Dieu, penser, réfléchir, tout ce que tu veux, mais pas spécialement dans le cadre de la prière. Tout le temps. T'es dans ta voiture, t'es dans un embouteillage, t'es sous ta douche, t'es dans ton lit. Hein?
Non.
Quoi?
Quoi, c'est un sourd? C'est pas un sourd.
Mais quoi, Dieu il est pas sous la douche?
C'est pas un sourd.
Pas,
on a pas le droit de. Tu fais pas de villa?
On a pas le droit de penser à des paroles de Torah? Non, Dieu il est pas sous la douche?
Dieu c'est.
Tu peux glisser dans la salle de bain?
Pas du tout. Pas du tout. Dieu il est partout.
Mendy. Dieu il sonde les cœurs tout le
temps. Non, lui il sonde, mais moi est-ce que je.
Mais il nous dit pas à quel moment il nous sonde.
Non, tout le temps il sonde.
Il est là quoi.
Bien sûr, c'est. Oui. Oui, oui, mais te dis la Admor HaZaken, là on parle.
Comme tu parles, tu dis je t'aime. Quand tu dis je t'aime, il va pas de
répondre. Là on va taper plus fort là. Là on te dit est-ce que tu aimes Dieu comme tu aimes ton père? Et tu dis non, je sens pas ça. C'est vrai, je sens pas que j'aime Dieu comme j'aime
mon père.
Tu parles à un mur. Est-ce que t'as pour être plus clair, est-ce que t'as un amour charnel pour Dieu?
Charnel, non.
Ah bah oui. Est-ce que tu vibres pour Dieu? Est-ce que t'as les frissons pour Dieu? Est-ce que tu as les palpitations pour Dieu? Ah oui, c'est la question. Tu vois un tzaddik, il parle de Dieu, il tremble. Il tremble comme deux t'aurais tremblé devant une femme. Alors comment c'est possible?
Parce qu'il a conscience, hein? Nous on l'a pas conscience.
C'est ce que te dit l'Admor HaZaken. L'Admor HaZaken te dit, sache que ça marche. Seulement, il te dit, il dit, oui mais docteur, je sens pas que j'aime Dieu. C'est ce que te dit l'Admor HaZaken. L'Admor HaZaken, il te dit, il faut éveiller, il faut penser, tous les moyens sont bons pour éveiller l'amour que tu as. Donc penser à ça, et on aura des techniques bien sûr
dans les chapitres. C'est comme si tu dis à un aveugle, regarde comment c'est beau le bleu clair.
Sauf que là en vérité tu vois, tu ne le sais pas encore.
Il ressent la lumière.
T'es doué pour la musique, tu ne sais pas encore.
Il ressent la.
Tu comprends? Donc on va te faire écouter de la musique, et à force d'écouter de la musique, il y aura un déclic qui va dire, mais attends, mais ça va, je touche là.
C'est dans le Ramam d'hier, t'as lu?
C'est tout?
Ouais.
On va s'arrêter là. Et donc, dès que l'homme va s'habituer à ça, s'habituer à dire, Bezrat Hashem avec l'aide de Dieu, si Dieu veut, et mettre Dieu partout, mais pas seulement le dire, Stam. Mettre Dieu partout dans sa vie, Are ha ergel na ase teva, l'habitude deviendra une nature. Et donc en vérité, tu finiras par sortir ta vraie nature. Ok. Seulement, on va continuer encore la semaine prochaine parce que c'est pas fini. David.
Non, c'est faux.
À force de le dire tout le temps, après ça devient une habitude et c'est monotone, c'est voilà.
Non, au contraire, il faut répéter.
Bah, tu le dis comme une chose, Baruch Hashem. À force de le dire, après,
Tu
ressens plus rien.
Oui, c'est vrai. Bon. Comme il y a un rave qui dit, vous savez, quand une personne me dit comment ça va, il me dit comment ça va, et je lui réponds Baruch Hashem. Aujourd'hui, malheureusement, très souvent, cette réponse, c'est une façon de dire,
Je
n'ai pas dit ça.
Ouais, mais enfin, c'est ça qu'il avait dire. Hein.
Comment ça va, Baruch Hashem?
Je rentre pas dans les détails.
Voilà.
Occupe-toi de tes affaires.
Passe ta route. Non, sérieusement. Mais d'un autre côté, il faut s'habituer à mettre Dieu dans notre bouche. Vous avez raison. Après, il faut pas banaliser non plus. C'est ce que vous voulez dire.
Ah, c'est exactement ça.
Un raison.
C'est exactement.
C'est vrai.
Mais d'un autre côté, il faut penser à
Dieu. Ça ne peut pas être quelque chose de nouveau à chaque fois que je le sors de ma bouche.
C'est vrai, mais à force de le répéter, ça finit par rentrer.
Non, mais on parle de les Arabes, tout le temps.
À la voix ouais.
De
là.
Ouais. À force de dire, tu le penses. Parce que pas tu le penses, à force de dire, tu découvres ce que tu pensais toujours.
Pour ça, on répète le chemin, c'est pas parfait.
On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ah, bien sûr.
Mais enfin, pas tous, hein, bon.
C'est du boulot, hein.
Bon, Mika, on te donne des tabonnés.
Ouais, c'est sûr.
On parle de Dieu dans un raconte tous les jours. Tous les jours. Mon Dieu, il est grand. Mon Dieu, il pense à toi. Mon Dieu, il t'aime. Mon Dieu, il te voit.
Je te reconnais.
Dis-moi, qu'est-ce que je vais prendre la même chose que toi.
Vodka.
J'en veux comme toi.
Barman, servez-moi la même chose.
De bien marcher.
Non, je veux la même. C'était l'essence. Non, je veux la même que toi.